I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
WWDC, iOS 16, iPadOS 16, CarPlay, MacBook Air M2, tout ce qu'a annoncé Apple, mais aussi Sheryl Sandberg et encore malheureusement Elon Musk. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 462 du Rendez-vous Tech. Nous sommes en juin 2022. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de remercier les Patriotes qui nous ont rejoints dans la grande famille des Patriotes cette semaine. Damien Flas, Loïc Isnard, ou Inard peut-être, Chris Sharp, Koega, Thierry Huguenin, Vulcam, Grégory et nos producteurs Lancelot Davizard et Franck Matignon. Merci à vous tous de permettre à cette émission d'exister. Je vous envoie plein de bisous comme ça. J'ai pas d'effets spéciaux avec le soundboard aujourd'hui, mais enfin si j'en ai, mais je vais pas en utiliser, je vais juste faire des bisous en ASMR. Comme ça. Vous entendez le rire malicieux de Cédric que je fais rire. C'est bien, je te fais encore rire après quoi, 10 ans, oui. 12 ans, 15 ans de relations intimes. 15 ans,
ouais. Ouais, alors attention.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a une relation intime, Cédric? Je sais pas.
Je sais pas.
On se parle, tu vois, à l'oreille, dans le micro, comme ça, toutes les quelques semaines.
Au moment, il va y avoir un autre Matrix Gate, vous allez voir, on va rien comprendre.
Non, ça reste complètement consentement mutuel
professionnel,
entre
évidemment.
Et moi, oui.
Et professionnel.
Très professionnel. Très professionnel. Bon, les podcasts, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on peut parler de sujets sérieux et de trucs intéressants, mais toujours avec un petit peu de détente. Et c'est le cas aujourd'hui parce qu'on a... Alors, on aura en deuxième partie d'émission des sujets vraiment sérieux, comme par exemple le départ de Meta inattendu de Sheryl Sandberg, des choses qui se passent encore du côté de Twitter et de Elon Musk. Mais de temps en temps, on retrouve une sorte de période bénie d'il y a quelques années où on pouvait juste parler de gadgets, de tech, d'OS et de geekerie. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est un de ces moments un petit peu suspendus, comme ça, merveilleux, puisqu'on va parler de la WWDC, la conférence de développeurs d'Apple. Et bon sang, il y a des choses à dire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On va essayer de ne pas faire trop long, mais je ne veux pas non plus trop nous restreindre. Mais sur chacune des plateformes d'Apple, eh ben on a eu quand même des annonces intéressantes à chaque fois, même si elles ne sont pas complètement révolutionnaires encore que... je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des révolutions. Il y a des prémices de choses vraiment intrigantes. Alors, on va en parler, mais avant ça, Cédric, qu'est-ce que tu as pensé de cette WWDC? Moi, j'ai plutôt été... agréablement surpris, impressionné par certaines choses. Toi, tu es un petit peu plus dans la réalité que moi avec mon Reality Distortion Field qui trouve tout merveilleux. Ouais. Ou qu'est-ce que tu
en penses? Non, en fait, c'est un très bon cru. On a connu des WWDC beaucoup plus fades, et je pense à celle de l'année dernière, où finalement, on était plus sur une stabilisation de l'OS avec quelques petites nouveautés. Il y avait quand même Continuity, ce genre de trucs, mais... C'était d'ailleurs Continuity, c'était le wow effect. Le reste, finalement, c'était l'OS qu'on connaissait déjà, iOS 16. Et il n'y avait pas grand-chose de vraiment nouveau. Avec iOS 16, je ne pensais pas qu'on irait jusqu'à ce niveau de modification de l'OS, avec de nouvelles fonctionnalités, etc., à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la domotique, de CarPlay, des messages, de absolument tout, ou presque, dans l'OS. Je pensais pas qu'en fait on serait sur une année qui apporterait autant de nouveautés. Je pensais qu'on allait avoir quelques nouveautés à la marge, mais qu'on serait encore sur de la stabilisation de l'existant. En fait, pas du tout. On part beaucoup plus loin, et du coup, pour moi, plutôt un bon cru. On a découvert plein de choses, y compris sur l'iPad, OS, et d'ailleurs même iPadOS se sépare vraiment maintenant d'iOS avec des choses qui sont exclusives à iPadOS, et c'est tant mieux.
Bah, on va en parler justement, effectivement. Moi, c'est surtout sur iPadOS que je vais avoir besoin que tu me ramènes sur terre un peu, parce qu'il y a des choses vraiment surprenantes, mais pas que, effectivement. Disons que pour résumer, on va rentrer dans les détails, mais pour résumer, je dirais que pour chaque plateforme. Alors, on le rappelle, hein, la WWDC, c'est la conférence pour développeurs d'Apple. Donc, ils présentent les nouvelles versions de leur plateforme, de leurs différentes plateformes, plateforme iPhone, iPad, Mac, Apple Watch. Cette semaine, il n'y avait pas d'Apple TV.
Et pas de TVOS, mais, d'ailleurs.
Ouais. Pas TV. Enfin, ils en ont dit quelques mots après dans les conférences secondaires. Oui. Et donc, c'est le moment de présenter les nouveautés qui seront présentes au moment de la sortie de ces OS qui se passent généralement à l'automne de la même année pour que les développeurs soient préparés aux changements, etc. Et je dirais qu'il n'y a pas, sur chacune des plateformes, il n'y a pas vraiment une fonctionnalité, à part peut-être l'iPad, une fonctionnalité où on peut dire « là, c'est vraiment le truc, le headliner, le truc à retenir ». Mais il y a un certain nombre de fonctionnalités, contrairement à l'année dernière, où on se dit « ah, attends, ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, ça risque d'être utile ». Et il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui, au final, dans l'ensemble, quand on les prend toutes alignées, font que, bah oui, il se passe des choses, en fait. Donc moi, je suis comme toi, je suis un petit peu surpris de l'impact de cet OS qui, sans refondre les choses depuis leur fondement, leur fondation, amène quand même des différences qui semblent notables. Alors, moi...
Tout à fait.
Ouais, t'es d'accord.
Oui, oui.
Je voulais commencer par iPadOS, parce que encore une fois, il y a cette fonctionnalité qui me paraît vraiment hyper importante, mais...
La météo.
Je suis... C'est ça, l'app météo sur l'iPad.
Enfin.
Cédric, incroyable, enfin.
On fait monter la sauce juste pour l'app météo.
C'est ça. Non, bon, on en parlera tout à l'heure parce que je suis un petit peu dans une tentative active de ressortir de mon Reality Distortion Field d'Apple. Je me dis, bon, on va prendre les choses calmement, dans l'ordre, respire Patrick, tout va bien se passer. Et on va parler d'abord d'iOS 16. Et c'est vrai que sur iOS 16, c'est quand même celui où il y a le plus de changements, le plus de nouveautés. Il y en a deux que je retiens. Je suis sûr que tu voudras nous parler de HomeKit et de Matter dans un instant, mais... Les deux principales que je retiens, et encore une fois, on ne peut pas parler de tout. Je vous ferai dans la newsletter un ensemble d'articles et de vidéos qui résumeront un petit peu encore plus de choses que ce dont on va parler ici. Mais on va essayer vraiment de vous faire ressortir l'essentiel. Et les deux fonctionnalités que je retiens, c'est d'une part les fonctionnalités du nouvel écran verrouillé, quand on prend son iPhone alors qu'il est verrouillé, et d'autre part... CarPlay, qui là, pour le coup, est un énorme deal. Mais l'écran verrouillé amène beaucoup de personnalisation et d'une manière qui est assez surprenante pour Apple. On peut désormais, enfin avec iOS 16, on pourra personnaliser son écran verrouillé avec, alors, une photo, ça c'est assez habituel, mais une photo qui va pouvoir détourer en fait le sujet de la photo pour venir se surimposer sur les informations, la date et l'heure par exemple. On va avoir un tout petit détourage qui va l'amener devant de manière très élégante. Bon, ça c'est un détail, mais on pourra appliquer aussi des filtres sur ces photos. On pourra ajouter à l'écran de verrouillage l'équivalent des complications de l'Apple Watch, c'est-à-dire des tout petits widgets avec des informations synthétiques sur différentes choses
qu'on pourra choisir. Là, tu parles d'iOS sur iPhone.
Tout à fait, exactement, oui.
Ok, ok. Parce que comme tu as dit, on va parler d'iPadOS et tout d'un coup,
Non. Oui, excuse-moi, je dis iPadOS, c'est ce dont je voulais parler, mais je suis revenu en arrière,
Ok.
Et en fait, ce qu'ils ont fait avec cet écran de verrouillé de l'iPhone, c'est qu'ils ont un peu pris l'écran, les watch face de l'Apple Watch et ils ont implémenté les fonctionnalités. Alors oui, les complications, effectivement, on a au-dessous de l'heure et de la date et de l'heure, une rangée où on peut mettre quatre petites complications, quatre mini-widgets tirés de l'Apple Watch pour avoir des informations directement sur l'écran verrouillé. Mais il n'y a pas que ça, on peut aussi établir différents écrans verrouillés préfaits entre lesquels on va pouvoir swiper à droite à gauche comme on le fait avec les watch face sur l'Apple Watch, et on va pouvoir aussi attribuer différents écrans à différents modes focus. Donc quand on a le mode focus au travail, on va avoir un écran dédié au travail. Quand on a le mode sommeil, eh ben, on va avoir un écran différent. Quand on a le mode, enfin, je ne sais plus, à la maison, on va avoir un écran spécial pour la maison, etc. etc. Donc, il y a vraiment désormais une utilité de cet écran de verrouillage. Alors, c'est des fonctionnalités dont une partie, on pouvait déjà les retrouver ailleurs, notamment sur Android. Mais là, elles arrivent sur iOS. Il y a aussi une refonte des notifications. Elles prennent beaucoup moins de place. C'est limite, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de notifications sur votre écran et on les vire parce que c'est un petit peu pénible. Donc, elles viennent tout en bas de l'écran dans un carrousel qu'on peut même faire disparaître. Et puis, dans ces notifications, il y a aussi un nouveau type de notification qui s'appelle des live activities qui vont pouvoir être en fait encore un widget, mais qui va être modifié en temps réel. Ils ont donné deux exemples. Un match de sport dont on va avoir les résultats en temps réel avec les buts, etc., le temps qui reste dans le match. Et ça, ça se met à jour en temps réel. Ou alors, une course Uber qui va nous indiquer, le petit widget va nous indiquer votre chauffeur est à tel endroit, il arrive dans tant de minutes et ça se met à jour en temps réel avec les informations sur la voiture, etc., etc. Donc, vraiment une refonte importante de cette OS. Puis l'autre chose, c'est CarPlay, mais peut-être un commentaire sur cette partie d'iOS 16 de Cédric.
Ouais. CarPlay, justement. Alors, moi, je l'utilise tous les jours.
Alors, pardon, je voulais un commentaire sur l'écran de verrouillage, si tu veux parler de CarPlay, okay. CarPlay, vas-y.
Non, ok, pas de souci. On va pas réussir à se comprendre aujourd'hui, Patrick, que se passe-t-il?
Non, mais c'est ça, après 10 ans, après 15 ans, on se parle plus assez, on se comprend plus, Cédric, voilà. C'est ça.
Non, le lock screen, évidemment, c'est juste top. En plus, c'est fait à la Apple, c'est-à-dire que ils savent qu'on peut vite rendre le truc ultra moche. Voilà, on sait, Patrick par exemple, on connaît tes goûts douteux. Le truc peut très vite être très moche avec les photos en profondeur, machin, avec une police d'écriture qu'on lit pas avec le fond de la photo, machin. Enfin bon, la totale. En fait, ils ont fait le truc, c'est comme toujours chez Apple, comme dirait Jérôme Kainborg qui est pas parmi nous. En gros, c'est la chambre d'hôtel dans laquelle on a l'illusion de faire la déco, mais finalement, on reste chez Apple. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le choix des filtres, des couleurs, etc., tout est fait pour que ça reste lisible, ça reste beau selon les canons d'Apple. Et du coup, c'est hyper bien pensé. Moi, je trouve que les complications, c'était vraiment le truc qui manquait. Moi, j'ai pas mal de widgets sur mon iOS. J'ai par exemple, tu vois, mes rendez-vous, j'ai mes anneaux fitness, etc., la météo. Mais si je peux avoir tout ça sur l'écran de veille de mon téléphone, ça m'intéresse beaucoup plus parce que j'ai pas besoin de déverrouiller mon téléphone. C'est-à-dire que j'appuie juste un coup sur l'écran, j'ai tout de suite l'aperçu de là où j'en suis et puis c'est fini, je peux le reposer et c'est terminé. J'ai pas besoin de déverrouiller, de slider à travers mes écrans, etc.
Ça sera encore plus cohérent avec les rumeurs qu'on a sur les iPhone 14 Pro qui auront un écran toujours allumé.
C'est ça. Ça serait totalement cohérent. On verrait toujours les complications et dès qu'on touche, comme sur la montre, elle sera active, etc. Il y a un commentaire de Quentin qui dit: est-ce que vous utilisez vraiment les différents écrans pour l'Apple Watch? Moi, j'en ai deux. Un pour le week-end et un pour la semaine où dans la semaine, j'ai plus d'infos parce que j'ai besoin de mes prochains rendez-vous, ce genre de truc d'un coup d'œil. Et le week-end, j'ai besoin juste de l'heure essentiellement, donc je mets juste l'heure. Sur le téléphone, je vois pas trop l'intérêt dans un premier temps, mais
en fonction de si on est au boulot ou à la maison, peut-être.
Ouais, voilà.
Ou
en fait, avec la ligne partie des gens qui utilisent Focus, je sais pas toi si c'est le cas, mais
pas du tout.
Mais moi, quand par exemple j'arrive au boulot et j'ai plus que un seul écran, quand je déverrouille mon téléphone, j'ai plus qu'un seul écran sur lequel j'ai Teams, Outlook, enfin tous mes outils du boulot. Il y a que quelques personnes qui peuvent envoyer des notifications et les autres elles finissent dans mon résumé, genre à midi ou à 18h. Et quand je quitte le boulot avec la géoloc, je repasse en mode classique où là, j'ai tous les autres écrans sauf celui où j'ai les outils du boulot, tu vois, l'inversion du truc. Et c'est vachement pratique. Et du coup, si en plus je peux personnaliser aussi l'écran d'accueil, pourquoi pas? Genre au boulot, j'ai un fond ultra neutre. Et quand je rentre chez moi, j'ai un fond avec la photo de mon dernier, etc. quoi. Donc,
Je trouve que c'est effectivement assez puissant. C'est quand même, ça demande beaucoup de personnalisation et de travail pour établir tout ça. C'est bien pour des geeks comme toi. Mais
non,
ce qui...
Je suis pas d'accord.
Non, c'est vrai.
Ah ouais, je trouve que c'est en fait quand j'ai vu la démo, je me suis dit c'est compliqué. Quand j'ai vu la démo, je me suis dit c'est compliqué. Et en fait, quand j'étais dans les paramétrages, franchement, vous avez un truc qui s'appelle concentration. Il y en a un, par défaut, ils en ont configuré quelques-uns, genre conduite, etc. Il y a une catégorie qui est notification autorisée et vous choisissez les contacts. Enfin, si vous voulez qu'il y ait des réponses automatiques ou pas, et à quel moment vous voulez que le truc s'active. C'est quand même, enfin, c'est pas
ça, ça a l'air compliqué, mais la mise en place est pas si difficile que ça. Il faut juste passer 10 minutes à le faire, quoi. Ouais, d'accord.
Ouais, c'est ça, honnêtement.
Très bien. Bon, bah écoutez,
gagner énormément de temps après, tu le fais une fois et puis voilà.
Je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, comme sur beaucoup d'autres fonctionnalités, mais je veux qu'on avance parce
Live Activities, juste un truc.
Oui.
Parce que c'est ces widgets-là avec modification en temps réel, comme tu disais, Uber, machin et tout, c'est vraiment cool. Mais même pour la maison, c'est-à-dire que si à un moment tu lances un minuteur ou n'importe quoi, je suis sûr que les minuteurs, ils n'ont pas fait la démo, mais tu vas avoir le minuteur en live widget en bas, ce genre de choses. Mmh. Peut-être même que si tu as une voiture électrique avec une app, tu pourras voir le temps de charge qui reste sur la voiture, où est-ce qu'elle en est en temps réel et tout ça. Et c'est vraiment cool, en fait, ce qu'ils ont fait.
Ouais, je suis assez d'accord. Bah justement, en parlant de voiture, CarPlay est l'autre chose qui m'a vraiment marqué. Et là, pour le coup, c'est hyper, hyper impressionnant. C'est une nouvelle génération de CarPlay. Je ne sais pas s'ils ont dit qu'elle ne serait pas disponible tout de suite au lancement d'iOS. Je ne me souviens plus, mais en tout cas...
Tout c'est un sneak peek, ouais.
C'est ça. Au lancement d'iOS 16, donc ça sera un petit peu plus tard. Mais c'est une nouvelle génération où CarPlay, c'est donc cette interface qui s'affiche sur un écran secondaire de votre voiture pour contrôler les fonctionnalités de l'iPhone. Mais la deuxième génération va beaucoup plus loin. Elle peut prendre en charge l'ensemble des écrans de votre voiture, qui est un grand écran, deux, trois. Enfin, elle peut afficher toutes les informations et elle peut afficher des choses comme la vitesse, l'heure, le plan, enfin vraiment absolument tout. Elle prend en charge tout l'affichage de votre voiture, cette nouvelle version de CarPlay. C'est un peu, enfin c'est vraiment un énorme changement. C'est Apple qui dit les constructeurs de voitures, vous inquiétez pas, vous faites votre petit dashboard si vous voulez, mais enfin après vous avez plus à vous en occuper. Nous, on prend tout en charge. C'est limite comme une Apple TV pour une télévision. C'est-à-dire que vous avez l'interface de votre télé qui a plein de fonctionnalités, que vous utilisez ou pas. Mais quand vous êtes sur l'Apple TV, bah, ça prend tout en charge et vous gérez tout directement par l'Apple TV, comme toutes les set-top box. Hein. Mais en gros, c'est un petit peu une set-top box pour votre télé et ça remplace tout ce qu'il y a déjà dans votre voiture au niveau affichage et information. C'est monumental. Moi, ça me paraît énorme. D'une part, c'est sans doute une pièce de ce qu'ils ont développé pour une éventuelle Apple Car qui sortira peut-être un jour. Mais là, ils en ont pris un morceau et ils l'ont mis dans l'iPhone pour la prochaine version d'iOS. Et vraiment, c'est un hijack, je ne sais pas comment on dit, pas une prise en otage, mais de l'informatique de votre voiture. Moi, ça me paraît énorme et je ne comprends même pas comment les constructeurs accepteraient ça, parce que entre ça et... peut-être que c'est le meilleur des deux mondes, mais...
Je vais te dire un truc, c'est un argument de vente, CarPlay. Aujourd'hui, en fait, aux États-Unis en particulier, mais même chez nous, ça commence. Enfin, moi, par exemple, je change de voiture, là. Je viens de recevoir ma nouvelle voiture. Il était hors de question qu'elle n'ait pas CarPlay. Et du coup, j'avais le choix même avec un autre véhicule qui n'était pas CarPlay. Et pour moi, il était hors de question de prendre le véhicule qui n'était pas CarPlay. C'est tellement facilitant, déjà à l'heure actuelle, que tu peux pas imaginer utiliser autre chose. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, ça va au-delà de ce qui existe à l'heure actuelle. C'est que la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, CarPlay, t'interagissais essentiellement avec ton téléphone, mais avec aucune fonctionnalité de ta voiture.
C'est-à-dire que la musique, le plan, oui, c'est ça.
Ouais, le seul truc, c'était pour la radio. C'est-à-dire quand tu écoutais la radio, sur CarPlay, il y avait un écran d'accueil avec trois widgets, et dans un des coins, on voyait qu'il y avait une icône en gros de radio et tu pouvais la mettre en pause. C'est tout ce que tu pouvais. En gros, ça coupait le son de l'autoradio. Hein. Ça ne la met pas en pause puisque vous ne mettez pas en pause la radio. Hein. Ça va de soi. C'est un média live. Mais ça a coupé juste le son, en fait. C'était la seule interaction physique avec le véhicule. Là, en fait, déjà, sur l'écran de base, je ne parle même pas du reste, hein, des compteurs de vitesse, etc. Vous avez l'accès à la climatisation, au chauffage des sièges, si vous avez des sièges chauffants. Enfin, en gros, vous avez accès à tout ce que vous aviez accès avec l'infotainment de votre véhicule de base.
C'est ça.
Et en plus, ils ont rajouté autre chose, c'est que vous avez aussi accès à tout ce qui est odométrie du véhicule. Donc, vous avez accès au contour, au compteur de vitesse, au niveau d'essence ou de batterie si c'est un véhicule électrique. le kilométrage, enfin la totalité.
Alors, juste pour être clair, c'est pas juste qu'on y a accès, c'est que là où pour les voitures qui ont un écran à la place du tableau de bord, de toute façon, eh ben sur ces écrans-là, c'est plus le système informatique de la voiture qui prend en charge l'affichage, c'est que tout passe par l'iPhone et c'est l'iPhone qui prend en charge l'affichage de votre écran existant.
En fait, il y aura les deux. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter ces véhicules-là auront de base un système proposé par Renault, par exemple.
C'est ça.
Qui et quand vous allez brancher l'iPhone, ça va le remplacer. C'est exactement ce qui se passe quand vous utilisez CarPlay. C'est-à-dire que de base, vous avez l'infotainment de votre voiture. Vous pouvez même utiliser, moi, je peux utiliser mon iPhone et changer la musique sans passer par CarPlay, hein, directement depuis. Mais là, la nouveauté, c'est que ça va remplacer le truc. Et c'est pas pour dans 3-4 ans, comme je lis dans le chat, c'est pour l'année prochaine. C'est dès l'année prochaine, les premiers véhicules compatibles seront là. C'est, d'ailleurs, ils l'ont annoncé hier, et je connais des gens qui travaillent sur ces projets-là, dans une marque aux losanges, qui m'avaient déjà dit, il va y avoir des choses incroyables chez Apple avec la prochaine version de CarPlay, mais j'imaginais pas qu'en fait, ça allait jusque-là. Donc, sur les prochaines versions de certaines voitures chez Renault, vous verrez, en fait, vous avez l'affichage complet par ce CarPlay Next Gen qui est pris en charge, et ça, c'est dès l'année prochaine, pas dans 3-4 ans. Là, ils nous l'ont montré parce qu'ils ont fait un peu de teasing, mais c'est dispo dès l'année prochaine.
Alors, à voir sur quel modèle, combien de modèles, etc. Ils ont annoncé beaucoup de partenaires. Il y en avait, je ne sais pas, une trentaine peut-être, chez les constructeurs. Et puis, ce n'est pas si compliqué à faire que ça, finalement, parce que tout est déjà informatisé dans les véhicules. Donc, ils passent l'info de la vitesse. Ensuite, on l'affiche par tel ou tel système. Ça ne change pas grand-chose. Mais bon, effectivement, c'est énorme. On pourrait faire là encore tout un épisode là-dessus. Mais pour moi, c'était l'une des grosses, grosses annonces qui est un petit peu passée en sous-main. Mais peut-être aussi que ça permet aux constructeurs d'avoir des systèmes performants et appréciés par les utilisateurs sans avoir à les développer eux-mêmes à une époque où l'informatique d'une voiture comme Tesla est quand même vantée comme une grosse avancée pour les constructeurs.
C'est ça. Et il y a eu un vrai changement de mindset chez les constructeurs automobiles qui au début voyaient Android Auto et CarPlay comme des concurrents à leur infotainment. Alors ça, c'est très franco-français, hein, parce que tous les marques étrangères l'ont adopté tout de suite. La preuve en est, c'est que justement, là, chez Hyundai, parce que du coup, je connais bien, parce que mon prochain véhicule est une Hyundai, il y a une mise à jour logicielle qui, du coup, autorise l'accès au véhicule via Apple Car Key. Donc, dans le wallet, j'ai la clé de ma voiture. Et dans mon Apple Watch, je peux la débloquer, mais je peux aussi démarrer mon véhicule avec. Et c'est une simple mise à jour. Et en fait, la seule question, c'est est-ce que le hardware est présent dans la voiture? Donc, il faut un capteur NFC, il y a tout un tas de trucs, etc. Mais l'idée, c'est que les constructeurs ont compris que c'était un vrai argument. Aux États-Unis, 79% des gens qui envisagent acheter une voiture envisagent de le faire uniquement si elle dispose d'un système intelligent comme CarPlay ou Android Auto.
Alors ça, c'était 78, je crois, c'est la stat d'Apple. J'aimerais bien voir d'où elle vient, mais ça fait beaucoup quand même.
Je suis sur beaucoup de forums automobiles et je te promets que c'est vraiment un argument important dans le choix. Ouais.
Je peux imaginer qu'on se dise, je le veux au cas où, quoi. Même si, admettons même que je sois sur Android, je veux qu'il y ait CarPlay et Android Auto dans ma voiture pour être tranquille si je veux changer un jour, parce que la voiture, tu l'achètes pour un certain temps, je peux l'imaginer. Alors, il y a eu plein d'autres choses.
Dernier truc, oui, notre Cassim qui nous dit, les gens aimeraient bien, mais après, personne n'a le budget. Tu prends le véhicule électrique le plus abordable qui est la Dacia Spring, elle est CarPlay. Et c'est alors maintenant elle a augmenté parce qu'il y a eu différentes augmentations de prix, mais c'était 16 000 et quelques euros pour un véhicule électrique, avec en plus une subvention, etc. Mais l'idée c'est que ça reste abordable, hein. Et vous trouvez CarPlay maintenant sur des véhicules qui sont pas si chers que ça en fait.
Plein d'autres mises à jour donc d'iOS. Il y a des choses dans iMessage où on peut éditer les messages, annuler un envoi de messages, passer plein de choses comme ça. Il y a un truc qui est intéressant, qui est une sorte de catalogue pour les applications SharePlay. Alors SharePlay, c'est quoi ? C'est la fonctionnalité qui permet de partager du contenu à l'intérieur d'un call FaceTime. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder la même vidéo ou ce genre de choses, là, ils incluent un catalogue d'applications qui peuvent avoir des mini-jeux ou des choses comme ça. ça me fait penser à WeChat ou à Line ou à ces super apps auxquelles on pensait beaucoup il y a quelques années, quand Zuckerberg voulait transformer Facebook en super app avant qu'il ne change d'avis et qu'il s'oriente vers le métavers. Mais là, c'est vraiment là encore un truc assez important. Y a quoi d'autre ? Il y a la dictée sur l'appareil directement, avec le clavier qui est toujours actif quand on fait la dictée, donc on peut changer très rapidement. La lecture du texte qu'on pouvait faire dans les photos, on pourrait les faire dans les vidéos aujourd'hui. On peut imaginer que des étudiants, par exemple, vont filmer une conférence, un cours, et vont pouvoir facilement en extraire du texte ensuite, ce genre de choses. Bon, il y a plein de choses. Comme je le disais, j'imagine que toi, tu veux nous parler de Matter et de HomeKit. D'autres choses aussi, hein, vas-y, mais...
On a 15 minutes hein, pour l'annulation d'un message, ouais, d'un undo sur iMessage.
Ouais, c'est pas infini, ouais.
Ouais, c'est ça. Je voulais parler de l'application. Oh, alors, t'as mis réorganisation mineure de l'UI. En fait, elle n'est pas si mineure que ça. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'interface utilisateur quand tu as beaucoup de devices. Et moi, c'est mon cas. J'en ai presque une soixantaine d'appareils. Et alors, ils sont classés par pièces, etc., mais pas vraiment par catégorie. C'est assez compliqué à s'y retrouver. Ma femme l'utilise beaucoup, HomeKit. Je pense que c'est d'ailleurs l'application qu'elle utilise le plus sur son téléphone, que ce soit pour la caméra qui filme le bébé quand il dort, ou allumer les lumières, ou etc. C'est devenu l'élément vraiment central de l'appart chez nous. Et on a quand même toujours ce truc de ah, mais sur la page d'accueil, j'ai mis tel truc en favori parce que c'était utile. Maintenant, je m'en sers un peu moins, mais enfin bon, c'était un peu le bordel. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé d'ailleurs les catégories par pièce en bas dans le menu. D'ailleurs, ça m'a surpris, il y a un bouton en moins. Parce qu'en fait, sur la page d'accueil, c'est déjà classé par pièce et on peut afficher que certains appareils favoris. Franchement, quand il y a un détecteur de mouvement, on s'en fout qu'il soit affiché sur la page d'accueil. Mmh. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ils ont fait un système d'onglets par catégorie, justement. Et si je clique sur la catégorie... capteur de température, et bien en dessous j'ai la liste de tous mes capteurs de température classés par pièce, et c'est hyper malin. Je peux avoir mes favoris, mais par exemple si je choisis d'afficher uniquement les interrupteurs, si je clique sur la catégorie interrupteurs, j'ai que les interrupteurs dans toutes les pièces en dessous classées par pièce. Franchement, ce qu'ils ont fait.
C'est marrant parce que quand tu dis oui, c'est plus facile de gérer quand on a beaucoup d'appareils. C'est vrai que moi, par exemple, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai pas plus de pièces différentes dans lesquelles il y a de la domotique, c'est que c'est tellement le bordel, après tu t'y retrouves plus dans l'application Home, donc effectivement peut-être que c'est pas, bon pour les gens qui l'utilisent c'est pas si mineur que ça, et puis surtout il risque d'y avoir plus de gens qui se mettent à la domotique, parce que l'alliance Matter, qui est une alliance entre Apple, Google, Microsoft et plein de fabricants d'appareils d'informatique, enfin d'appareils de domotique, eh ben, elle décolle enfin et iOS 16 sera compatible. Donc, c'est une compatibilité totale entre tous les appareils qui ont ce standard Matter. Oui. Donc, on n'aura plus Philips d'un côté et les autres de l'autre. Ça sera tout le monde ensemble.
On s'en fiche.
Et voilà, voilà, vous achetez un appareil Matter, et ça marche avec tout. Ouais. C'est très bien. Ouais. Un autre truc que je voulais évoquer aussi, c'est les changements sur les photos et surtout sur les partages dans les settings de family, dans les paramètres de famille. Au-delà du fait qu'on peut mettre en place des comptes pour les enfants, etc., de manière plus simple, il y a les partages entre personnes qui sont beaucoup facilités. Et c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière. Je ne sais plus si c'était Mathilde ou Guillaume qui espéraient ce genre de choses. Et c'est exactement ce qu'on a eu. D'une part, un truc tout bête, hein, mais une librairie photo partagée dans laquelle on peut mettre chacun nos photos et on pourra avoir accès à toutes les photos. Donc, c'est vraiment une librairie, enfin une bibliothèque de photos partagées. Mais en plus de ça, on peut envoyer les photos vers cette librairie directement au moment où on prend la photo. On peut faire en sorte qu'on partage des photos où deux personnes apparaissent. Ben on va partager ces photos avec l'autre personne. Il y a des suggestions de partage, etc. Donc, cette histoire de photos dont on n'a jamais toutes les photos quand on part en vacances ou quand on est week-end ou quand on est en soirée, eh ben, ils en parlent. Et c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière. Il y a des fonctions pour ça aussi.
Ouais, et c'est vachement bien. Au début, je me suis dit, Et en fait, quand j'ai vu à quel point ils avaient poussé l'automatisation, je me suis dit, en fait, ça va au-delà de... Ils n'ont pas juste dit, vas-y, on fait une bibliothèque partagée, on met tout dedans. c'est hyper intelligent. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, quand je suis dans tel lieu ou avec telle personne, et il géolocalise les gens. Donc, du coup, ils savent qu'ils sont avec vous en vacances. Et donc là, ils partagent les photos, quoi. Et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait.
iPad OS 16. Bon, alors, allez, là je me lâche. Y a quelques trucs, franchement, pas hyper, hyper intéressants. Y a du contrôle des couleurs. Il y a des trucs dans Game Center. Il y a des trucs dans les interfaces, enfin, les API et la gestion des graphismes. Voilà, un petit... Ils ont fait un sneak peek à un tableau blanc partagé. Beaucoup d'emphase sur Freeform. Le partage. Voilà, un truc qui s'appelle Freeform. On pourra en parler après si tu veux, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le truc de l'iPad qui est aussi présent sur macOS, mais qui est moins intéressant sur macOS, un truc qui s'appelle Stage Manager. Alors, Stage Manager, c'est en fait la possibilité d'utiliser une sorte d'outil de fenêtrage et de surimposition de fenêtres, comme sur une interface graphique classique comme Windows ou macOS, mais sur l'iPad. C'est-à-dire qu'on peut avoir entre une et quatre fenêtres affichées sur l'iPad, et les autres fenêtres, c'est-à-dire les autres apps qu'on a utilisées récemment, se décalent sur le côté, et on peut y accéder en cliquant dessus, soit en tapant avec le doigt, soit en cliquant avec un trackpad ou même une souris, maintenant que l'iPad peut les utiliser. C'est disponible que sur Mac M1, mais c'est vraiment une interface, alors, un petit peu simplifiée, mais on se rapproche vraiment...
Pas sur Mac M1, sur iPad.
Ah pardon, M1. Sur iPad M1, oui. Tout à fait. Sur iPad M1, pas sur tous les iPads, quoi. Ils font un M1. Mais du coup, on a effectivement deux ou trois ou quatre fenêtres qui sont sur ce qui devient un petit peu un desktop sur l'iPad. Et on peut les redimensionner parce qu'il y a il y a des fonctionnalités de display scaling qui va adapter la taille de l'interface, etc. On peut redimensionner les fenêtres. Et on a sur le côté, si on veut utiliser une autre app, eh ben on peut taper dessus et ça l'amène sur le centre du stage. C'est vraiment... Et en plus de ça, alors hyper important, j'ai failli l'oublier, quand on connecte un écran externe à cet iPad, eh bien l'écran externe est géré comme un autre écran sur lequel on peut aussi avoir quatre fenêtres et les fenêtres sur le côté. Donc en tout, on a huit apps en fait, différentes, qui sont affichés en même temps sur notre iPad et on peut passer de l'une à l'autre. Ce qu'il faut noter, c'est que, évidemment, on peut continuer à utiliser notre iPad comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire avec une seule app ou même deux en l'une à côté de l'autre. Mais ça, c'est une sorte de fonctionnalité de bureautique, de power user qui se rapproche d'un ordinateur. Certains diront que ça va peut-être trop loin, mais c'est vraiment un changement majeur dans la manière dont on peut utiliser l'iPad. A priori, on verra ce que ça donne quand il sortira. Mais c'est vraiment un changement majeur parce que ça veut dire que pour le multitâche et avec le fenêtrage, eh ben on peut travailler sur un iPad un petit peu comme on peut travailler sur un Mac. Ce que je disais en plaisantant hier, c'est que on pensait que Apple allait amener le Mac vers l'iPad. Ben en fait, non, ils ont amené l'iPad vers le Mac. C'est à deux doigts d'inventer macOS, cette histoire. Certains diront que ça va peut-être trop loin, comme je le disais, mais il ne faut pas oublier que l'iPad, on peut continuer à l'utiliser très simplement comme on le fait jusqu'à maintenant. Et je pense que la plupart des gens le feront comme ça. Hein. Ça s'adresse à relativement peu d'utilisateurs, ce type d'utilisation. Mais du coup, on se rapproche encore plus de l'utilisation d'un iPad comme ordinateur principal, Cédric. Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça pour la plateforme ou est-ce que tu crois que je m'emballe un peu ?
Non, en fait, c'est important pour Apple qui annonce depuis longtemps que l'iPad est un ordinateur comme les autres. Et malheureusement, sans gestion d'un écran externe correct et sans gestion... Enfin, aujourd'hui, on lançait réellement des apps en full screen. On faisait éventuellement du partage d'écran. On découpait l'écran en deux, mais ça restait du full screen. On pouvait afficher au maximum trois applications en même temps et encore, il y en avait une qui recouvrait l'autre. On peut pas dire que ce soit ce qu'on attend d'un ordinateur de bureau pour faire du multitâche. Et quand on le branchait sur un écran externe, ça faisait juste du mirroring de l'écran, sans rien de nouveau. Ça s'adaptait même pas aux écrans 16:9. Donc il y avait des grandes bandes noires. L'utilité de le brancher sur un écran externe était extrêmement limitée. Donc personne ne le faisait, hein, honnêtement. Là, en fait, avec ce qu'ils ont fait avec Stage Manager, etc., on est beaucoup plus proche de ce qu'on retrouve sur macOS, puisque Stage Manager sera sur macOS. Alors, c'est exactement la même fonctionnalité que tu disais, hein, tu crées des groupes d'app, etc. Enfin, des groupes de fenêtres via par app. Et c'est assez bien fait. Par exemple, vous avez l'application mail ouvert et l'appli et le la fenêtre nouveau mail ou un mail lui-même ouvert. Ça vous les regroupe sur le côté. Et quand vous cliquez dessus, ça peut afficher ces deux fenêtres-là que vous pouvez resizer, etc. Il y a quand même des limitations et on le voit quand il l'utilise. Alors, la nouveauté, c'est qu'on le resize en bas, mais tu sens que, encore une fois, on est chez Apple. C'est-à-dire qu'ils disent, si la fenêtre est trop petite ou si elle est trop grande, ça fout en l'air Stage Manager. Donc, tu sens qu'il y a des limites dans les tailles de fenêtres. Mmh. Et pareil, sur le chevauchement des fenêtres, tu sens que, bah, il y a des zones sur lesquelles les fenêtres n'iront jamais puisqu'elles sont faites pour afficher éventuellement une fenêtre qui serait avec, en dessous ou, tu vois, enfin, voilà.
Ouais.
Donc, si tu as un iPad avec un écran de petite taille, je pense que ça peut devenir assez pénible. Par contre, là où ça prend son vrai intérêt, c'est si tu le mets en, sur un écran externe. Et là, pour le coup, tu as plus de place d'affichage, etc. Et ça devient hyper intéressant. Moi, j'ai travaillé pendant un an uniquement avec un iPad Pro, qui n'était pas un M1 à l'époque. Ouais, mais et qui était un iPad 4G en plus, donc c'était cool, j'avais Internet partout. J'avais un petit clavier Logitech que j'emmenais partout et une souris. Alors, la souris était assez mal gérée au début, mais ensuite, c'était bon. Et honnêtement, tu dis le pauvre, ben, je me suis assez vite habitué à ça. Quand ils ont sorti en plus iPadOS 15, alors moi, j'avais déjà arrêté de bosser uniquement avec l'iPad, mais quand ils ont sorti iPadOS 15, je me suis dit, si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais été mais encore plus efficace. Mmh. Parce qu'il y avait des pertes de temps sur des glissés-déposés, les gestions de fichiers qui n'étaient pas incroyables, etc. Là, on a un vrai gestionnaire de fichiers. On a une
Il y a beaucoup d'améliorations dans le gestionnaire de fichiers aussi. Hein.
Ouais.
Je ne l'ai pas mentionné.
Honnêtement, allez, il me manque moi encore un truc pour arriver au bout du bout. C'est-à-dire que, bon, toujours pas de Xcode et ça, c'est un peu embêtant.
Toujours pas de quoi, pardon ?
De Xcode, tout simplement. Ah oui. Donc, si tu veux faire du dev dessus, alors il y a Swift Playground qui te permet de faire des apps et tout, de les compiler dessus et compagnie. Ok, mais c'est assez limité. Il me manque juste ça parce qu'après réellement par exemple Teams est mieux sur iPad que sur la version bureau. La gestion du multicompte etc y est alors que sur la version bureau ben, ça n'y est pas par exemple. Y a ce genre de choses en fait qui me font dire que on s'approche du doux rêve de l'iPad est enfin un ordinateur qui peut être exploité comme un ordinateur. Faire du montage sur un iPad M1 c'est possible, en plus utiliser un écran externe c'est encore mieux. Donc les limites y voyait à l'iPad, bah, sont en train de s'effacer. Honnêtement, dessus, avec la suite Affinity, ce genre de choses, bah, on y est, en fait. Il va nous manquer pas grand-chose sur l'utilisation. Donc, vas-y.
Non, vas-y, fini, je voulais...
Ouais, et quand ils font référence à des desktop class apps, c'est surtout qu'en fait, ils ont autorisé un truc qu'ils s'étaient interdits jusqu'à maintenant, c'est des personnalisations de menus, des menus avec plein de boutons, alors que jusqu'à maintenant, c'était interdit, ça, chez eux. Tu sais, des bandeaux, en fait, comme on trouve dans Office, par exemple. Pour eux, c'était interdit. C'était genre le minimum d'app, puisqu'on utilisait tout ça au doigt. Sauf que là, maintenant, on peut diminuer la taille de l'interface pour ajouter des icônes. En gros, on tombe sur une interface de bureau, hein, des apps, hein, clairement. Hein. L'appli mail, elle ressemble à l'appli mail de macOS. Hein. Et pour un usage souris, puisque vraiment, ils ont fait la démo avec la souris et trackpad, on y est, en fait. Il n'y a pas... Si tu veux, on se rapproche énormément de l'expérience macOS sans être dans du macOS. Et je dois reconnaître que ça fait envie d'utiliser ce genre de machine. Si tu fais de la bureautique, enfin honnêtement, les gens qui, pour 90% du temps, ils font un peu de retouche photo vite fait de leurs photos de vacances, histoire d'eux, qui font un peu de montage vidéo et qui font essentiellement du surf sur Internet, de la bureautique et tout, ben voilà, je pense que là, vous avez l'ordinateur portable idéal et quand vous rentrez chez vous, vous mettez juste un clavier, une souris et un écran et puis vous avez un vrai ordinateur, quoi.
Donc, c'est ça, en fait, qui est... Parce que certains demanderont avec raison, bah, du coup, pourquoi pas prendre un Mac ou est-ce que l'iPad ne perd pas de sa spécificité, donc même de son utilité. Et je crois que la question est tout à fait légitime. Si tu vas pouvoir faire tout ce que tu peux faire avec un Mac... Pourquoi avoir fait un OS dédié à l'iPad ? C'est tout à fait vrai. Là,
il manque Final Cut.
Ouais, non, mais il manque. Enfin, il y a plein de trucs. On pourrait faire une liste longue comme le bras. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, je ne peux pas encore produire un podcast sur iPad ou ce genre de choses. Mais là où il y a des choses.
Comme outil.
Pardon ?
Utilise quoi comme outil ?
Oula, je te ferai une liste immense. Le problème, c'est que c'est difficile d'enregistrer. Alors, en plus, je stream en même temps.
Sources, etc.
C'est ça, d'enregistrer différentes sources. Ça viendra peut-être. Hein. Mais là où l'iPad reste différent d'un ordinateur un petit peu plus, on va dire, big boys, big girl pants ordinateur, c'est que il peut être utilisé hyper simplement comme un iPhone ou comme un iPad qu'on a toujours connu. Ça reste possible à utiliser avec une seule app en plein écran. Et oui, évidemment qu'on peut aussi mettre une app en plein écran sur Mac, mais c'est pas la même chose, c'est un OS plus compliqué, etc. Là, on est en train d'arriver à un iPad qui était extrait de l'OS d'iPhone, comme c'était le cas au tout début, extrait d'un OS d'iPhone et qui s'en éloigne pour se rapprocher du Mac, mais il reste entre les deux. On a le Mac qui est un truc très multitâche, très productivité, etc. L'iPhone sur lequel on peut faire plein de choses, mais qui reste un outil un petit peu moins pratique pour le travail. Et l'iPad qui va être entre les deux vraiment, qui n'est pas aussi super pratique et transportable qu'un iPhone, mais qui n'est pas non plus aussi puissant qu'un ordinateur classique, que ce soit Mac ou PC, mais qui est vraiment entre les deux. Parce que jusqu'à maintenant, et on va dire jusqu'à il y a 2 ans, l'iPad, c'était un gros iPhone, quoi. C'était pas plus que ça. Et là, il le différencie vraiment. Et à voir, il faudra voir ce qui se passe avec ces nouvelles mises à jour, et j'imagine que l'année prochaine, ça sera encore plus le cas. Mais à voir si ça peut vraiment en faire un outil qui se différencie des autres, des deux autres finalement. Et je crois que l'idée d'avoir cet iPad en déplacement qu'on va utiliser de manière peut-être un peu plus simple, parce que franchement, Stage Manager avec des fenêtres plus petites sur un écran de 9 pouces,
C'est nul.
Ça va être un petit peu compliqué encore.
Non, là, il faut un minimum un 13 pouces, mais bon.
Mais alors, disons qu'on utilise les apps sur iPhone, hein, donc l'écran est plus petit.
Oui, mais les apps sur iPhone, attention, hein, les desktop class apps, comme ils les appellent, on est sur des apps qui, déjà, vont te demander, tu sais, de réduire la résolution, enfin, la taille de tes interfaces, ajouter des choses qui seront peut-être difficiles à cliquer au doigt, en fait, tu vois.
Bien sûr. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que on peut justement l'utiliser plutôt pour continuer le parallèle ou l'écart entre iPhone et Mac. On peut l'utiliser plutôt comme un iPhone en déplacement et puis plutôt comme un Mac à la maison. Et du coup, ça devient un appareil qui est vraiment polyvalent et qui pourrait peut-être suffire à beaucoup de gens. C'est un truc qu'on dit. C'est bizarre parce que c'est un truc qu'on dit depuis 10 ans. Quoi. Ah, l'iPad pourrait suffire à des gens qui s'en servent, qui se servent de leur ordinateur juste pour faire du mail et de la navigation. Et pourtant, les gens continuent à utiliser un ordinateur. Alors, à voir si là, ça l'amènera. Mais je dirais que là, c'est peut-être encore une fois la meilleure chance que ça a de prendre. Bon, à voir. Donc ça, c'est.
Nico Poppy qui pas mal, il dit je trouve que l'iPad de moins en moins différencié avec la Surface. En fait, il se différencie sur la puce M1 et sur l'autonomie. C'est-à-dire que voilà,
la Surface a une bonne autonomie quand même. Enfin, ça dépend de quel modèle de Surface, mais
D'expérience. On n'est pas sur l'autonomie et la puissance équivalente entre la Surface
et... Non, mais ce qui change surtout, c'est l'OS. C'est ça, c'est que la Surface reste sous Windows et l'iPad reste, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'utiliser une Surface un petit peu comme une tablette. On a toujours Windows dessus, donc...
Voilà.
Bon, iPadOS, on passe à WatchOS. Alors, très rapidement sur WatchOS, la chose à noter, à mon sens, il y a des petits changements sur les watch face, le fitness, etc. Il y a une app médicaments qui permet de traquer les traitements qu'on a. On peut prendre des photos avec l'iPhone des médicaments qu'on a et puis il va les reconnaître tout seul. Il va regarder s'il y a des interactions néfastes entre tel et tel médicament. Il va vous envoyer des reminders ou des vérifications que vous avez bien pris vos médicaments. Et en même temps, on peut partager ces données de santé et particulièrement ces trucs de médicaments avec un proche. Et ça, c'est assez pratique si on a une personne dans sa famille qui est peut-être un peu âgée, par exemple, ou dont on a besoin de suivre l'état de santé. Ça peut être pas mal. Mais voilà, c'est les nouveautés de WatchOS. Franchement, c'était assez mineur. Tu voulais ajouter quelque chose sur l'app médicaments, non ?
Non, ce qu'ils ont annoncé quand même, c'est que ça rejoint iOS, mais l'appli Fitness est maintenant disponible pour les gens qui n'ont pas d'Apple Watch. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, elle va se baser sur les capteurs, évidemment, de l'iPhone, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une montre Xiaomi avec des exercices, etc., ou Fitbit. Et ces exercices-là vont se verser dans l'application Fitness d'Apple et ils vont les convertir dans leur système de Ring. Donc, du coup, vous aurez automatiquement... vous pouvez faire aussi participer au Close the Ring, etc. Et ça se versera aussi dans l'appli santé. En gros, vous pouvez bénéficier de tout l'écosystème Apple sans forcément avoir envie de dépenser de l'argent dans une Apple Watch, quoi. Si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch ou si vous êtes lié à l'écosystème Fitbit pour une quelconque raison, parce que vous avez un historique ou que sais-je, voilà, ça c'est envisageable et je trouve que c'est plutôt bien en termes d'ouverture, en gros, de rendre compatible l'application fitness avec à peu près tout ce qui se fait, quoi.
Tout à fait. Quoi d'autre ? Alors, maintenant on arrive au Mac en dernière section. Côté matériel, on a le processeur M2 qui est... alors, le M1 a complètement chamboulé l'industrie de la micro-informatique en amenant une puissance incroyable à un niveau de consommation très bas. Et donc, surtout pour les ordinateurs portables, mais pas que, hein, mais pour les ordinateurs portables, les appareils portables, c'était une durée de vie de batterie inattendue. Le M2 va plus loin dans cette direction, c'est-à-dire qu'on a des performances qui sont supérieures, selon Apple, de entre 20 et 30% en fonction de ce qu'on regarde, avec la même enveloppe thermique, donc avec la même consommation, et donc peut-être avec, si on a besoin de faire des tâches plus gourmandes, on aura besoin de moins d'énergie, et donc on aura une batterie qui durera plus longtemps. Je ne vais pas vous embêter avec le nombre de cœurs des GPU, le nombre de cœurs du Neural Engine, tout ça. Mais donc, c'est le processeur M2, j'irais presque jusqu'à dire que c'est un M1+. Hein. C'est pas le truc qui ait fait autant tourner les têtes que le M1 à son époque, mais on ne pouvait pas s'attendre non plus à ce qu'il chamboule toute l'industrie à chaque nouveau processeur. Et ils ont aussi annoncé le MacBook Air M2, qui est un MacBook Air avec un processeur M2, mais qui est aussi et surtout redesigné. Il est beaucoup plus proche du design des MacBook Pro nouvelle génération, avec un design plat. Hein. On n'a plus cette... comment on dit un wedge en français, ce design en...
Courbure.
Pardon ?
Ah, cette courbure, peut-être ?
Oui, pas courbure, mais enfin... Oui, en
triangle. Non, mais oui, il a... Ouais, c'est ça.
Voilà, un MacBook qui est plat, qui fait 11 mm d'épaisseur, 1,2 kg, un meilleur écran, une meilleure webcam, etc., etc. Et un prix un petit peu gonflé aussi quand même. Hein. Il fait 1 500 € minimum en euros. Donc, à voir si ça vous intéressera, des nouvelles couleurs également. Il y a aussi un MacBook Pro 13 pouces M2, celui qui a encore la Touch Bar. Ça, c'est un petit peu bizarre comme produit, mais visiblement, il plaît beaucoup.
Ça ne l'achetez pas, en fait. Enfin,
oui,
clairement,
celui-là, c'est pas la peine.
Vous trompez en cliquant sur ça, quoi.
Voilà. Mais oui, donc le M2, le MacBook Air M2, c'est l'appareil que beaucoup de gens attendaient. Moi, j'avoue que je me disais, ah, il est peut-être temps de changer mon MacBook Pro qui a 5 ans. Et puis, j'ai vu le prix. Et je me suis dit, bon, bah.
Voilà. En fait, comme à peu près tout le monde. C'est-à-dire que. Non, en fait, il est au même prix aux États-Unis que l'ancienne génération. Mais chez nous, il a pris 50% de plus. Donc, c'est un peu compliqué.
Non, il est un peu plus cher que l'ancienne gêne, je crois. Hein. Il est 100 dollars. Mais c'est 100 TVA aussi. Donc,
d'accord, mais c'est pas très grave. Ouais. Il est 100 $ de plus. Tu attends à ce qu'il soit allé 150 € de plus chez nous. Ouais. Non, il est 500 de plus. Enfin, 400 de plus. Donc, bon. Voilà. Non, en fait, je pense qu'il y a aussi la volonté du prix, elle est liée par deux facteurs. C'est. Si vous le voulez vraiment, vous allez le payer parce qu'en fait, on va sans doute pas pouvoir en produire beaucoup avec le contexte actuel général, tu vois.
C'est peut-être ça, ouais.
Je pense que c'est plus ça, en fait, l'idée. C'est pas une histoire de, tu vois, de conversion ou de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a cette problématique de gérer aussi la pénurie. Et chez Apple, le moyen de gérer la pénurie, c'est en utilisant les marges. Et ça, c'est pas plus mal. Pas pour eux, en tout cas.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est une bonne machine. Pas à ce prix, mais c'est une bonne machine. Moi, tu sais, on enregistre, je suis sur la version M1, moi, du MacBook Air, hein, la première génération. Alors, c'est le 8 cœurs, 8 GPU. D'ailleurs, à noter que le M2 de base est en 8 cœurs, 8 GPU aussi. Hein. Le plus 2, c'est pour la version à 1 800 €. Hein. On n'est pas sur celle à 1 500. Donc, déjà, tu vois l'écart. Ça, c'est une chose. Ils ont gardé dans la gamme le MacBook Air M1. Aux États-Unis, il est passé à 899 $, c'est-à-dire que sous la barre psychologique des 900, c'est-à-dire le prix des MacBook tout court de l'époque en plastique, là, qui était vraiment l'ordi par excellence des étudiants, etc. Chez nous, en fait, ça n'a pas changé de prix. C'est-à-dire que si vous voulez acheter le MacBook Air M1, en fait, il est exactement au même prix que le MacBook Air M1 de l'année dernière. Puisqu'en fait, ils n'ont pas changé. Et pire que ça, il est en 8 cœurs, 7 GPU, et vous ne pouvez plus l'avoir en version 8 cœurs, 8 GPU comme celui que j'ai. Donc, en gros, c'est vraiment, il ne reste plus que l'entrée de gamme. C'est le SE, mais sans le prix du SE, quoi, en fait. Donc voilà, c'est à noter quand même ces petits changements. Je pense que le M2 va apporter un gros boost de perf. Voilà, il faut mieux attendre le refurb, comme dit Picard Flo, ou si comme moi, vous avez la remise éducation, 10% de remise, c'est déjà, ça fait un peu moins mal. Mais dans l'idée, bon, le prix là s'oublie pas, en fait. C'est ouais, ça la vraie problématique. Et les couleurs assez décevantes, hein, quand même. Je m'attendais à vraiment ce qu'ils nous la jouent un peu iMac. Et en fait, pas du tout. Ils nous l'ont joué plutôt Apple Watch, quoi.
C'est-à-dire que c'est un midnight blue qui est tellement sombre qu'on dirait du noir, quoi.
Noir. Ouais. Oui, c'est noir. C'est du blue navy, black, midnight, je sais pas quoi. Enfin, c'est noir, quoi. Ouais.
Et il y a on l'a pas mentionné, mais il y a. On l'a pas mentionné, mais il y a le notch sur l'écran, bien sûr, comme c'est sur les nouveaux MacBook Pro, et le MagSafe pour charger qui est de retour sur MacBook Air.
Ouais, c'est ça. Le MagSafe qui est de retour, qui libère du coup les deux ports USB-C, quoi. Voilà, c'est la nouveauté. Et il y a toujours la prise jack qui est là, étonnamment. Voilà.
Eh ben oui, ça, non mais sur les ordinateurs, c'est bien. Et puis enfin, oui. macOS Ventura, qui franchement, alors Stage Manager, on en a déjà parlé, c'est plutôt sympa sur Mac aussi, même si c'est pas aussi important que sur iPad. Stage Manager, donc, on a une ou deux fenêtres en centre d'écran et puis toutes les autres qui se décalent sur le côté en profondeur, comme ça. Plutôt pratique pour gérer ces fenêtres. Et puis Passkey, qui est en fait l'implémentation des connexions sans mot de passe, recommandée par la FIDO Alliance, à laquelle appartiennent beaucoup d'autres membres de l'industrie. En gros, c'est l'effort de l'industrie pour supprimer les mots de passe et on utilisera des facteurs biométriques avec Touch ID, Face ID, ce genre de choses. En gros, ça génère un mot de passe sur votre appareil et vous ne le voyez même pas. Donc, vous ne savez pas que vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un en vous en fichant, en vous en avoir par une arnaque. Et on peut partager entre les différents appareils. En gros, ils promettent beaucoup de compatibilité, de portabilité de ces mots de passe. Parce que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Ok, c'est sympa cette histoire de mot de passe, mais si je perds mon iPhone, je ne peux plus me connecter aux endroits auxquels j'ai créé un truc. » Bon, il y a des moyens de
récupérer avec un QR code, tu scannes pour ajouter un nouveau device, etc. Ouais.
C'est ça.
Je me suis posé aussi la même question sur le fonctionnement, mais c'est la FIDO Alliance, donc tout est prévu, en fait.
Une petite chose aussi sur le nouveau macOS, c'est ce truc un peu ridicule, Continuity Camera. Enfin, ridicule et impressionnant à la fois. Ils ont montré la possibilité d'utiliser la caméra de votre iPhone sur Mac, c'est-à-dire que vous avez un petit accessoire qui se colle à votre iPhone.
Les caméras sont tellement pourries qu'en fait, vous allez utiliser vos iPhones.
C'est ça, c'est marrant. Ils n'ont même pas besoin en fait, de faire de bonnes caméras sur Mac. Parce que vous pouvez utiliser celle de votre iPhone. Donc maintenant, c'est fini. Plus besoin de s'en soucier. Mais là où c'est marrant, donc vous avez un accessoire. Pardon ?
Ils auraient pu enlever le notch, du coup, et enlever les caméras.
C'est ça, plus besoin. Voilà. Vous avez cet accessoire qui vous permet d'accrocher votre iPhone en haut de votre écran comme une webcam. Et donc, il est considéré, il est reconnu comme une webcam par votre Mac. Là où c'est impressionnant, c'est qu'ils utilisent la caméra de l'iPhone ultra grand angle pour filmer votre bureau et l'afficher comme deuxième caméra disponible sur votre Mac. C'est-à-dire que vous avez du coup deux caméras disponibles et vous avez votre bureau, si vous voulez montrer des choses sur lesquelles vous travaillez sur votre bureau, et ben même avec le téléphone pointé sur votre visage, le grand angle est tellement grand avec de la photographie améliorée et retravaillée avec l'ordinateur, ben il peut faire une photo normale, enfin une vidéo normale, de votre bureau, de votre clavier, de votre souris et de ce que vous posez sur le bureau. Alors, ça sera utile à 3 personnes dans le monde, mais c'est quand même impressionnant techniquement, quoi.
Oui, en fait, ils utilisent un truc qui est autorisé dans plein d'apps, mais je suis sûr qu'à peu près aucune app l'utilise ou très peu. Tu sais, c'est le fait de pouvoir utiliser tous les objectifs en même temps. Il y a quelques applications qui le font. Il y a une application de live en particulier qui le fait, qui te permet d'avoir en gros 3 angles de vue en n'ayant qu'un seul bloc d'optique. Il utilise toutes les caméras en même temps. Mais là, en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, la caméra classique vous filme à vous.
Visage, quoi.
Voilà, filme ton visage. Et le grand angle, lui, fonctionne en même temps, mais lui, il se concentre sur la partie basse, finalement, de ton bureau. Et alors, ils disent que c'est hyper pratique pour eux, pour leur équipe de design, machin. Nous, dans les faits, filmer le clavier, c'est pour montrer quoi, en fait?
C'est pour ça, oui. Je dis, ça ne servira pas à grand monde. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de montrer des échantillons, des trucs. Bon, peut-être, mais là ouais. Où c'est impressionnant techniquement, c'est que le grand angle, évidemment, il est pointé sur toi. Il est pointé sur toi aussi, comme la caméra normale. Oui, et pourtant, il est tellement grand angle qu'il voit tes mains, quoi. Donc, plus ton bureau.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on branche l'accessoire MagSafe, vu qu'il est NFC, en fait, il déclenche cette fonctionnalité. Ils se connectent à l'ordinateur finalement le plus proche. En fait, ils utilisent toutes les connectiques qu'ils ont mis en place, tu sais, dans les iPhone 12, 13, etc. Et du coup, c'est transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as mis ton téléphone dessus, ça active la fonctionnalité alors que l'écran reste éteint de ton téléphone. Tu le poses sur ton écran et en fait, ça se connecte tout seul dès que tu ouvres une fenêtre Face ID, FaceTime, etc.
Ça, j'avais pas vu.
C'est automatique.
C'est pas mal.
Voilà, et l'écran de ton téléphone reste éteint, donc ça consomme pas plus de batterie, etc. C'est 100% sans fil. C'est la façon dont ça fonctionne, c'est assez impressionnant. Ouais. Quoi.
Pratique pour les gens qui font du streaming de jeux de combat, par exemple. Tu peux montrer ta manette en même temps.
Tu vois, souvent, tu es dans une salle de réunion, on est à deux autour d'un PC ou trois avec quelqu'un qui est à distance. Bah, tu mets ton téléphone, ça permet d'avoir un grand angle, d'avoir le fameux Stages qui te permet de suivre les interlocuteurs qui parlent. Ça peut servir à ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais après, ça va s'arrêter là. Hein.
Ouais. Et voilà, je crois qu'on a... On est arrivé au bout. Il y a des choses qu'on a ratées, bien sûr, mais dans l'ensemble, je crois qu'on a à peu près tout couvert, finalement.
Ouais, quasiment. Quasiment, mais dans Ventura, bon voilà, j'ai adoré la façon dont ils sont moqués d'eux quand ils l'ont présenté sur le choix du nom.
Oui, ils font ça chaque année. Hein,
Ouais. Non, mais là, c'était quand même l'équipe marketing qui a ouvert ses chats. Enfin, c'était à mourir de rire. Non, le jeu vidéo, vite fait, c'est le truc qu'ils nous présentent chaque année. Cette année, ils sont venus avec Resident Evil, c'est le 8.
Village, ouais.
Ouais, et aussi No Man's Sky, lol. Et quand je vois ça, je me dis, mais arrêtez en fait. Enfin, si c'est pas pour venir avec un truc sérieux, je trouve que c'est...
Le truc, c'est qu'il y a une telle...
Ça dessert le truc.
Il y a une telle opportunité. Et moi, à chaque fois, tu sais, on en parlait dans le Discord avec les amis pendant la conférence.
Ils ont moyen de faire du console grade, hein, clairement. Mais...
Il y a... À chaque fois, moi, je disais, c'est un clown avec une moustache, tu vois, c'est ridicule quand Apple parle de gaming. Mais il y a une opportunité. Le gaming est énorme sur mobile, évidemment. Ils font des sommes d'argent qui feraient pâlir d'envie n'importe quel acteur de jeux vidéo traditionnel. Et il y a une opportunité sur le Mac. Je me dis, aujourd'hui, non, clairement, le jeu vidéo, c'est pas très sérieux sur Mac, mais... Un an, deux ans, trois ans, peut-être que les développeurs vont se dire, mine de rien, il y a énormément de Mac dans le monde et ils en vendent plus que les gens ne vendent de... Enfin, ils croient plus vite que le PC. Donc, il y a une opportunité. Il y avait une époque où les développeurs, une partie d'entre eux, s'intéressaient au Mac. C'est moins le cas aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra. Mmh. Peut-être que ça pourra revenir. Mais aujourd'hui, oui, moi, j'y crois pas trop. On n'a pas parlé aussi du fait qu'ils n'ont pas parlé de leur casque de réalité augmentée qu'on attendait peut-être, au moins l'OS. Bon, pas un mot, mais...
Ah oui, non, mais ça j'ai un gros doute hein, sur ça.
Oui, bon, peut-être un jour. Enfin, il est censé arriver. Hein, donc.
Bon, oui, bien sûr. Mais pas pour cette année, quoi.
Pas pour... Oui, non, peut-être pas. Voilà pour ce grand résumé. J'espère que ça vous aura intéressé. On va vous parler de Sheryl Sandberg, de plein d'autres choses également. Mais avant, il faut bien sûr que je vous parle de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon ? C'est le moyen de... Est-ce que vous êtes déjà dit dans votre vie, Patrick, il est sympa, je lui paierai bien un café. Hein ? Un café, une bière, un sandwich, une voiture, vous pouvez. Eh bien, pour faire ça, vous allez sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Créer un compte, ça prend deux secondes. Vous choisissez le niveau de soutien que vous voulez envoyer à l'émission Et après, eh ben vous êtes chaque mois, chaque fin de mois, vous êtes facturé de la somme équivalente et vous envoyez un peu de sous à l'émission, à moi personnellement, et vous permettez à l'émission d'exister. C'est le moyen le plus simple, que dis-je ? C'est le moyen de soutenir l'émission. Et en plus de ça, vous avez des bonus plutôt cool, comme des contenus en plus, des timecodes dans le flux privé. Vous avez des émissions sans pub, sans même cette petite partie promo au milieu. Et vous avez surtout la satisfaction immense de vous dire « moi, je suis quelqu'un de bien ». Parce que il y a plein de gens bien dans les auditeurs, mais parfois, on n'est pas tout à fait sûr. Si vous vous posez des questions sur la qualité de votre moralité, vous pouvez vous dire, eh ben écoute, je vais... C'est un petit peu comme les... Merde, comment on appelle ça ? Les indulgences, tu vois. À une certaine époque, on pouvait acheter des indulgences à l'église, et là, tu te disais, bah ok, mes péchés sont pardonnés. Bah là, c'est un peu pareil. Vous n'êtes pas sûr d'être quelqu'un de bien. Vous mettez un petit café dans le Patreon de Patrick, et là vous dites, ah ouais, aucun doute, moralement, je suis irréprochable. Moi, je dis ça, après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez avoir une épée de Damoclès morale sur votre tête jusqu'à la fin des temps, vous pouvez. Mais je vous offre ce moyen simple et pratique de devenir quelqu'un de bien avec l'absolue certitude, patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors Cédric, Sheryl Sandberg a quitté, est en train de quitter Facebook, enfin Meta.
C'est incroyable.
C'est, alors bon, on plaisante, mais c'est carrément inattendu. Pour ceux qui ne le savent pas, Sheryl Sandberg, c'était la, enfin c'est encore la numéro 2 de Facebook. C'est celle qui a construit le business de Facebook. C'est la COO, Chief Operating Officer de Facebook, et elle a vraiment construit la société. Elle était en plus de ça, enfin elle est toujours, hein, l'une des femmes les plus visibles dans la Silicon Valley, et elle était presque devenue une icône féministe avec, avec son livre Lean In. Évidemment, ces dernières années, avec les, la chute de popularité et les controverses chez Facebook, elle a, se fait un petit peu plus tout petite. Mais le fait qu'elle parte comme ça, sans prévenir, enfin si maintenant elle prévient, elle partira à l'automne, mais c'était inattendu. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose de comment dire, est-ce qu'on peut voir des conspirations, des controverses? Qu'est-ce que tu penses de ce départ? C'est quand même un changement important pour Facebook, quoi.
Ouais, mais j'arrive plus à suivre ce qui se passe chez Meta et Facebook. C'est... Non mais honnêtement, c'est... Entre on est perché, on est dans le métavers, c'est l'avenir, c'est les mondes virtuels, et en même temps, il faut qu'on continue à gagner du pognon chez Facebook et on continue à faire des choses pas très cool alors qu'on avait promis qu'on arrêtait. Enfin, moi j'ai un gros problème moral avec cette société depuis un moment, et je pense que certaines personnes haut placées doivent aussi avoir quelques problèmes de curseurs de morale qui doivent pas être ajustés avec leur propre morale, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc je suis pas étonné que elle trouve que soit les choses vont, ça peut être dans les deux sens, hein. Soit les choses vont pas dans le bon sens pour elle, c'est-à-dire que soit ça va pas assez vite, soit au contraire ça va beaucoup trop loin et que elle sent arriver le moment où Meta va peut-être faire pchit. Et que bah il est temps de, peut-être de partir en fait. Pchit parce que ben la vision, parce que toutes les questions même éthiques que ça peut poser, enfin bon, c'est tellement, on est tellement sur un sujet qui touche à l'humain de manière générale, que, et aux relations entre humains, que c'est hyper touchy. C'est un gros imbroglio, tu vois, enfin, je pense qu'elle est, j'ai la sensation qu'elle se dit, bon, s'il y a un moment où il faut partir, c'est peut-être maintenant, ouais. Et peut-être pas attendre.
Mais il y a plein de facteurs. Hein. Il y a le fait, tu le disais, les histoires de métavers, Zuckerberg est en train de prendre la société dans une direction très différente. Ils ont des problèmes en bourse parce qu'ils ont perdu des utilisateurs pour la première fois depuis de leur histoire. C'est pas la première fois de leur histoire, pardon, mais clairement, il y a une chute de la valeur boursière, les gens y croient moins. Elle invoque un burn-out, ce que je peux tout à fait imaginer. Enfin, ça fait presque 15 ans qu'elle est chez Facebook et elle a vraiment construit le business. Alors, on pourrait se dire des problèmes de morale, effectivement. C'est elle qui a construit tout le business pub, hein, donc c'est elle qui en est responsable, mais peut-être qu'elle s'en sent responsable, c'est possible. Elle voit Zuckerberg, qui est la moitié technologie, la moitié ingénierie de la boîte, prendre la boîte dans une direction différente. Il y a peut-être un moment où elle se dit, bon, bah, c'est une autre étape de Facebook, enfin de Meta. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça commence à être la merde. Elle a aussi, elle s'est remariée. Je me demande si elle n'a pas des enfants dans son nouveau mariage. Donc, elle se dit, c'est bon, j'ai assez bossé, je vais aller sur mon yacht, m'occuper de ma famille, j'en ai marre. Et ça serait tout à fait compréhensible qu'une personne, après 15 ans de boulot acharné, après avoir construit tout ce qu'elle a construit, se dise, ça va. Il y a certaines personnes qui évoquent peut-être une carrière en politique. Bon, peut-être. Clairement, Facebook, enfin Meta encore, j'arrive pas à dire Meta, est pas le mieux placé au niveau de l'image en ce moment. Mais peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gros changement pour Facebook et pour Meta. Elle a un remplaçant, Javier Olivan, qui semble-t-il va prendre un petit peu moins de place. Il y avait une sorte de triumvirat à la tête de la boîte. C'était donc Zuckerberg, Sandberg et Nick Craig, je crois, Craig, qui s'occupaient de tout ce qui était légal. C'est genre Zuck et Sandberg, ils veulent pas s'occuper des relations avec les départements de justice et les gouvernements. Ils disaient, ok, bon, toi tu vas t'en occuper, t'es à la tête de la boîte aussi. Bon, là il reste que ces deux-là. C'est surprenant et en même temps pas si surprenant de ça, parce que je comprends qu'elle en ait marre, quoi.
Bah oui.
Donc ça, c'était Sheryl Sandberg qui part. Entre parenthèses, on a entendu des rumeurs selon lesquelles Facebook serait en train de préparer un produit publicitaire avec quasiment zéro tracking, ce qui est peut-être pas inattendu vu les réglementations qui sont en train de popper un petit peu partout, comme le RGPD. Mais c'est un produit qui permettrait de cibler par rapport au sujet des vidéos et de l'engagement des vidéos ou des posts plutôt que des données personnelles. Donc bon, à suivre, c'est une rumeur.
Parce que c'est pas une donnée personnelle, le niveau d'engagement sur des vidéos.
Non, c'est-à-dire que le nombre de vues, par exemple, sur une vidéo, tu vois, c'est, tu cibles sur ces choses-là.
On repasse à l'avant utilisation des données personnelles. C'est ça en fait.
Ouais.
En gros, plus une vidéo est vue, plus on va la pousser. Enfin,
c'est ça. Et peut-être sur les sujets.
Ça n'a jamais été efficace. En plus, Facebook s'est fait aussi attraper, tu sais, pour les
nombre de vues de vidéos,
les chiffres, les nombres de vues pipotées, que ce soit sur les lives ou sur tout le reste. Donc bon, ça sent mauvais.
La semaine dernière, on n'a pas parlé d'Elon Musk et il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit un épisode sans Elon Musk, quel bonheur. Vous savez quoi ? Je suis d'accord avec vous. Malheureusement.
Moi, j'en peux plus de lui. J'en peux plus de lui.
Alors, on va faire rapidement. Musk a envoyé une lettre d'avocat à Twitter qui déclare que le fait qu'il n'ait pas donné des informations justes sur le nombre de bots constitue une rupture claire de leur contrat d'accord pour la vente de Twitter et qu'il se réserve le droit de ne pas acheter Twitter. Alors, au-delà de le niveau de trollerie de Musk qui atteint des niveaux stratosphériques, il y a deux choses. Soit il veut faire chuter, il veut renégocier le prix de vente pour le faire chuter, ce qui est possible. Soit il veut carrément faire marche arrière et ne plus acheter. Il veut annuler le contrat alors qu'il a signé. Hein, c'est pas un truc quand vous avez signé pour acheter une maison. Une fois que les trois mois sont passés, et là le mois vient de passer, pour les questions réglementaires, même pas, lui il a signé. Quand vous avez signé, c'est terminé quoi. Vous pouvez pas dire ah bah finalement je veux pas. Évidemment, un type comme ça et dans ce genre de sphère, tu peux faire des procès interminables, tu vas faire des trucs qui vont faire qu'au final il va y avoir une sorte d'accord. Il y a une clause de cassure de contrat qui est de 1 milliard, même si. Il paye ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vendu beaucoup d'actions Tesla pour 8 milliards, je crois. Et il l'a fait sans que ça soit trop bizarre, parce qu'il avait dit qu'il voulait acheter Twitter. Donc peut-être que c'était une sorte de stratagème avec échec en quatre dimensions. Je dis que je veux acheter Twitter, et puis je vends mes actions Tesla, mais ça ne fait pas trop bizarre parce que j'ai dit que je vais acheter Twitter. Donc l'action Tesla ne va pas tomber. Mais en même temps, au final, elle est tombée quand même, parce que le marché est hyper inquiet de voir Elon Musk faire ce qu'il fait. L'action Tesla s'est effondrée, et elle était à des niveaux stratosphériques injustifiés, a priori. Et il se disait, je ressors de mon contrat, je le ferai assez facilement parce que je suis Elon Musk. On ne sait pas du tout ce qui se passe, mais en tout cas, il a fait des ouvertures pour se retirer du contrat qu'il a signé, quoi, de l'accord qu'il a signé. Et ouais, je suis comme toi, j'en peux plus de ce mec. Quoi.
Moi, j'en peux plus. En fait, tu veux voir l'anecdote perso. Hein. Comme je disais en début d'émission...
Tu l'as rencontré dans un carrefour il t'a insulté. Alors, non.
Je te disais, j'ai acheté une nouvelle voiture. Ouais. Et j'ai hésité avec le modèle 3. Alors, bon, le fait que le prix augmente m'a décidé à ma place, mais pas que. C'est-à-dire que je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de donner de l'argent à ce gars-là? Parce que quand il fait de la politique dans ses tweets, je n'en peux plus de lui, en fait. Enfin, on a compris que c'était que maintenant, à cause de la gauche américaine qui s'était extrémisée vers la gauche, lui, du coup, alors qu'il n'a pas changé de position, il était devenu full républicain trumpiste, tu vois, mais que c'est pas de sa faute en plus, c'est la faute vraiment de la gauche qui le pousse à ça, tu vois. Enfin, tous les trolls qu'il fait sur les causes à défendre, machin, et tout ça, j'en peux plus de lui en fait. Autant je l'admirais en tant qu'entrepreneur et il avait une vision, etc. L'image qui s'était construite, tu vois, du geek entrepreneur, machin, tu vois, le fait que Bass soit un fou de cyberpunk, de machin, tu vois.
Ouais, c'était Tony Stark, quoi.
C'était génial. Mais sauf que, eh ben, il y a ce côté, il y a un côté détestable en lui. Et pour moi, malheureusement, ça prend le pas sur tout le reste. Et typiquement, je ne veux plus entendre parler de ce gars, quoi. Enfin, j'en peux plus d'entendre jour et nuit. C'est horrible. Enfin, c'est plus possible, quoi.
Comme le dit Kassim, c'est Tony Stark, mais il bosse pour Hydra, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est what if Tony Stark était dans Hydra et pas dans les Avengers, quoi, tu vois.
Ouais, ouais. C'est bon. Je suis assez d'accord. Il est vraiment, comme on dit, c'est un troll qui fait ressortir les pires côtés de l'utilisation des réseaux sociaux. Et là, bon, au-delà de la personnalité du type. Bah, le fait qu'il commence à faire des ouvertures pour dire non, vous m'avez menti, alors que ces histoires de bots, c'est un prétexte. Je sais qu'il y a des gens qui vont défendre en disant...
Inventer des robots en plus, tu sais. Ça fait drôle.
Il y a une question, quel est le pourcentage de bots sur Twitter?
Oui, je sais.
Ouais, et il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais alors, peut-être que... Est-ce que Twitter a menti, machin? Mais c'est un prétexte. C'est tellement clairement un prétexte. C'est quand tu sais, on a l'impression qu'on doit réexpliquer pourquoi la Terre est ronde, tu sais. Mais alors, quand je regarde, je vois très très loin. Ok, alors 1 plus 1, ça fait combien? On repart à la base. Bref, bon, voilà, on a fait notre petite partie Elon Musk.
Non, mais clairement, la vraie problématique, c'est qu'il joue à l'idiot. et tu te dis, mais soit il est vraiment con à ce point, mais c'est pas possible en fait.
Ah bah, ce qui est clair, c'est qu'Elon Musk est pas con.
Idiot.
Ça, il y a
non,
aucun doute
non.
là-dessus.
C'est pour ça qu'en fait, c'en est même dégradant. C'est que il prend les autres pour des cons en fait. Et moi, je
non, c'est pas tant qu'il prend les autres pour des cons, c'est qu'il
bah, un peu quand même. Ce genre d'action, tu peux à quel moment
non,
tu dis
non, c'est qu'il s'en fout, mec. c'est que un mec qui est tellement riche qu'il n'a en fait. Aucune conséquence qui peut le toucher. C'est ça qui est horripilant. Tu vois, il dit mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Il y a je dis que je tweete ça a des
non, c'est ça qui me fait penser. Je regarde The Boys en ce moment, c'est Homelander dans The Boys, mais pas avec des super pouvoirs, avec de l'argent. Mais vraiment, c'est ça.
Ouais, non, mais c'est un peu ça.
Vraiment, c'est ça.
Je suis d'accord.
Genre, on lui refuse un truc, du coup, il devient.
Il fait son tantrum, il tape des pieds, il est tout énervé, il fait « Ah ouais
quoi,
bah dans ce cas, je vais acheter Twitter !»
Un montage photo de Homelander avec la tête de Elon Musk, tu vois.
Ça lui plaît.
Je vais le poster sur Twitter.
Très bien, saison 3 de The Boys, d'ailleurs.
Bah oui.
En parlant de gens un petit peu détestables, un truc inattendu, vous vous souvenez, on parlait de la loi qui a été votée au Texas et en Floride d'ailleurs, qui interdirait aux réseaux sociaux de censurer quelque opinion que ce soit. Et en gros, c'est une loi qui imposerait, c'est une loi qui a été votée par des républicains, qui interdirait aux réseaux sociaux de censurer Donald Trump. Elle avait été, les réseaux sociaux, les géants de la tech, qui ne sont pourtant pas nos meilleurs amis en ce moment, ont demandé une injonction contre cette loi, c'est-à-dire ils font un procès et ils veulent qu'elle ne soit pas applicable le temps que le procès se termine. Une cour de justice pour le Texas avait décidé « si, elle doit s'appliquer jusqu'à la fin du procès ». Et donc la question est remontée à la Cour suprême américaine. Et de manière surprenante, la Cour suprême a décidé que l'injonction tenait, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du procès, ils n'ont pas dit est-ce que la loi est valide ou pas, mais ils ont dit bah, l'injonction tient parce qu'on n'est pas sûr de la loi, et donc jusqu'à la fin du procès, elle ne s'applique pas encore. Et évidemment, si le procès se termine, quelle que soit la manière dont le procès se termine, c'est a priori un truc qui va remonter à la Cour suprême, et donc elle devra statuer là-dessus. Avec cette décision, on pensait que comme elle est à majorité républicaine, elle dirait, bah oui, elle va, il faut l'appliquer. Là, on n'est plus tout à fait sûr. Donc, cette loi très inquiétante est un petit peu on n'est pas sûr de la fin de ce processus juridique. Ces lois-là, c'est des lois dont les promoteurs savent parfaitement bien qu'elle est anticonstitutionnelle et qu'il a. Enfin bon,
oui.
Un autre truc qui s'est passé au Texas. Encore, c'est que le Attorney General du Texas, Ken Paxton, a dit, comme par hasard, qu'il allait lancer une enquête, on parlait de Elon Musk tout à l'heure, une enquête dans la manière dont Twitter a signalé la présence de bots dans ses rapports officiels suite à la complainte d'Elon Musk. Voilà, on est dans un truc complètement... Enfin bon, bref. Si vous n'êtes pas content de la... C'est le métavers de... Ouais. Si vous n'êtes pas content de la manière dont ça se passe en politique par chez nous, allez pas faire un tour aux États-Unis, vous allez faire un...
Ah, c'est le multiverse républicain, là.
C'est ça, oui, un petit peu.
C'est n'importe quoi.
Bon, il y avait un petit peu de trucs sur les NFT, OpenSea qui s'est encore fait hacker, le fait que, en fait, dans les transactions de Bitcoin, la plupart des mineurs, enfin des gens qui ont trouvé, qui ont miné des Bitcoins, en fait, il y en a 64 acteurs de la blockchain, ce qui laisse penser que la décentralisation, c'est un petit peu plus en théorie qu'en pratique, parce qu'il y a des gens qui ont des énormes fermes de minage, et c'est eux qui récupèrent tout, et pas entièrement décentralisé, et c'est pas Jean-Jacques avec son PC dans son bureau qui fait vraiment la décentralisation du réseau, c'est concentré beaucoup plus qu'on ne le pensait jusqu'à maintenant. Allez, on va finir avec un truc marrant quand même. Internet, c'est rigolo parfois. Est-ce que tu as suivi les mèmes Morbius, du film Morbius?
Ah ouais,
t'as suivi ça?
Oui.
Alors, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Je sais pas si t'as vu l'histoire avec le film qui est sorti au ciné ou pas.
J'ai quelqu'un qui est rentré dans le bureau.
Ah d'accord, bon, alors je vais expliquer.
Je laisse expliquer, je reviens après, j'ai le temps de...
D'accord. En fait, le film Morbius, qui est un film Sony dans l'univers de Spider-Man, est sorti il y a quelques semaines et a complètement raté sa sortie. Il a fait un petit peu d'argent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ne l'espérait Sony. Et il est parti des ciné au bout de 2 ou 3 semaines seulement. Et sur Internet, il est devenu une sorte de mème avec des gens qui essayaient de diffuser le film dans son intégralité par tous les moyens possibles. Sur Twitch, sur Twitter, alors évidemment Sony le faisait fermer, et il y a des gens qui en faisaient des mini-gifs minuscules qui faisaient le film entier, genre 1h30 dans une gif toute petite, qui le diffusaient, et c'est devenu, tout le monde disait « Ah, it's Morbin time !» C'est pour invoquer la personnalité de Morbus. Ça a énormément fait de bruit ces dernières semaines, et du coup... Sony s'est dit « Ah mais attends, il y a du bruit sur Internet, c'est super, on va le remettre dans les cinémas ». Ils les ont sortis dans 1000 salles de retour. En fait, ils l'ont ramené dans 1000 salles au ciné. C'était ce week-end dernier et le film a fait $280 000 en tout, sur tout le week-end. C'est-à-dire qu'il a ramené genre $270 par salle. Personne n'est allé le voir, évidemment. Et donc, Sony s'est bien ridiculisé. Et ce pauvre Jared Leto, qui incarne le personnage Morbius, doit avoir un petit peu honte. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec Morbius. J'ai trouvé ça très, très drôle.
Il est nul.
Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Marvel.
Les critiques sont... Enfin, c'est horrible, quoi.
Clairement. Mais c'est très drôle que tu vois la grosse... C'est un misread complet de boomers dans des bureaux, tu sais, à Hollywood, qui se disent « Attends, on en parle sur Internet vite, remettons-le dans les salles. $270 par salle. » Bon, y a quand même des gens qui sont allés le voir, du coup. Mais... Oh là là, j'ai trouvé ça drôle. Et c'est vraiment l'exemple parfait que le piratage sur Internet n'est pas du tout équivalent à des, tu vois, du vol ou de l'équivalent de place au ciné, quoi. Parce que là, ça s'est pas converti. Alors qu'il était diffusé en live partout, le film, c'était très drôle. Voilà pour Morbius et pour la fin de notre émission, le rendez-vous Tech. Merci Cédric d'avoir été avec moi et de nous avoir aidé à décortiquer cette conférence WWDC d'Apple. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on veut un peu plus de Cédric Deluca?
Le plus simple, c'est sur Twitter. Twitter.com/Cédric Deluca avec le chiffre 2 à la place du 2, Luca. L-U-C-A. Voilà.
Magnifique, merci Cédric. Pour ma part, c'est NotePatrick partout. Vous avez NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Discord, où on passe de bons moments. Si vous voulez commenter, par exemple, les conférences du faux E3 du jeu vidéo, je suis sûr qu'on aura des threads pour commenter tout ça. Vous avez... Pardon ?
Du Note E3.
Du Note E3, exactement. Il y a aussi la newsletter que vous pouvez retrouver. Il y aura plein de descriptions et d'explications et de vidéos sur cette WWDC et d'autres choses, hein, bien sûr, la veille tech. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com et sur, vous avez les liens vers tout, y compris le Patreon, patreon.com/rdvtech. Si, comme je disais tout à l'heure, vous voulez avoir la certitude totale d'être une personne moralement incorruptible, bon, j'exagère peut-être un tout petit peu, vous pouvez me payer un café ou une glace, tiens, il fait un peu chaud, vous pouvez payer une glace sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous.
Ah tiens, je voulais rajouter un truc, puisque Poppy le rappelle, mais c'est vrai que ce week-end, bon, pour ceux qui nous suivent en live surtout, parce qu'en podcast, ce serait peut-être trop tard, mais 10, 11, 12, sur la chaîne du Studio Renegade, on organise un événement caritatif pour la lutte contre la mucoviscidose, donc on va streamer pendant 48 heures. Moi, je m'occupe du matin, de 5h à 7h du matin, hein. Voilà, du coup, si vous voulez venir faire un coucou et pourquoi pas lâcher un euro, voilà, c'est pour la bonne cause.
Super, studiorenegade.fr, qui aura des liens sur ton compte Twitter. Top.
C'est ça, exactement.
Et si vous êtes Patreon, on se retrouve pour l'after show, et puis sinon, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau rendez-vous. Rendez-vous tech. Merci à vous tous, à très vite. Ciao, ciao. Ciao.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.